France Culture. France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
De l'assiette à la planète, comment manger pour le futur? À travers le podcast de Deux Causes à Effet, nous poursuivons notre enquête sur l'alimentation au quotidien, du pain au café, en questionnant les effets sur la planète et l'environnement et les solutions possibles. Un voyage dans nos assiettes avec des experts, des scientifiques, des professionnels de terrain, mais aussi des chefs engagés. Au menu aujourd'hui, le poisson. De l'exploitation intensive aux ressources qui s'épuisent, de la pêche industrielle aux petits pêcheurs côtiers, peut-on manger sans nager en eau trouble? C'est la question que nous poserons à Didier Gasquel, un professeur émérite en écologie marine à l'Institut Agro, auteur du livre « La pêche écologie, manifeste pour une pêche vraiment durable », livre paru aux éditions Quaé, et Frédéric Lemanac, directeur scientifique de l'association Bloom, ONG dédiée à la défense de l'océan. Puis en seconde partie d'émission, nous accueillerons Charles Brenne, marin-pêcheur et fondateur de l'association Pleine Mer, pour regarder avec lui du côté des alternatives océanes durables. Et sans oublier, bien sûr, la séquence à la table 2 avec l'ingénieur agronome et chef en restauration durable, Manon Dugré. Bonjour et bienvenue dans le magazine de l'environnement de France Culture, coordonné par Célestine Babinet, avec la collaboration de Aurélie Marcet, Vanessa Chang, Sophie Cheblin, Anne Delaveau de Lina, à la réalisation Alexandra Malka et à la technique Guillaume Ficheux.
Alors aujourd'hui, on a un peu de merlan, des maquereaux, des beaux rougets de roche, des baudroies.
Les poissons ici, c'est formidable. On en trouve tous les jours à des prix très convenables. Donc on fait une cure de poissons. Il y en a qui font des cures dans des, je sais pas, dans d'autres établissements thermales ou autres. Nous, c'est une cure de poissons et je crois que c'est génial.
Bonjour Frédéric Lemanac.
Bonjour.
Bonjour Didier Gasquel.
Bonjour.
Vous l'avez entendu, c'était un extrait d'un reportage diffusé sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le 19-20 du 11 juin 2024. Les Français aiment les poissons. La France est l'un des pays d'Europe le plus consommateur, 32 kilos par habitant et par an, contre 21 kilos, je crois, en moyenne pour le reste du monde. Frédéric Lemanac, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une consommation excessive?
Oui, il y a une consommation excessive. Simplement parce qu'on consomme trop par rapport au nombre d'habitants qu'on est sur la planète. Si on divisait la quantité de poissons qu'on pêche chaque année par le nombre d'habitants, il faudrait qu'on en consomme beaucoup moins pour que ce soit juste et que chacun puisse avoir accès à la même quantité de poissons. Et donc en fait, en consommant trop, on retire du poisson de la bouche de certains habitants, notamment dans la ceinture intertropicale, là où on a des populations qui sont beaucoup plus fragiles que les Européens ou que les Américains en termes de sécurité alimentaire. Donc on a une consommation qui n'est pas durable, ne serait-ce que du point de vue de la taille de la population humaine et de notre consommation globale.
Puis nous allons le voir dans l'émission, certains nutritionnistes ou médecins conseillent aussi aujourd'hui de moins en manger, puisque ces poissons, malheureusement, à cause de pollution planétaire, ingèrent aussi des métaux lourds et des substances qui malmènent la santé humaine. Didier Gasquel, notre alimentation menace la ressource en poissons et peut avoir des impacts sur le climat et les écosystèmes. Or, de nombreux citoyens ne le savent pas forcément. La pêche est la grande oubliée des débats sur l'alimentation, selon vous ?
Oui. Oui, absolument. On voit partout fleurir des plans d'alimentation durable qui souvent font des choses très intéressantes en matière de produits agricoles, mais qui malheureusement souvent oublient les produits aquatiques. Voilà. Alors il est urgent de se saisir de ces questions-là parce que il y a des poissons qui sont produits de manière extrêmement durable et puis il y en a d'autres qui ont des impacts très importants sur les écosystèmes globalement. Donc il est temps d'acquérir une culture pour bien choisir son poisson. Probablement, il faut commencer, comme vient de le dire Frédéric Lemanac, par en consommer moins, mais ça, c'est surtout pour des raisons d'équité nord-sud. Mais ensuite, effectivement, il faut savoir le choisir.
Le secteur pêche n'est pas considéré comme celui de l'agriculture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la même traçabilité exigée par rapport à la viande, par exemple. Pour le poisson, ce n'est pas la même chose?
Alors, il y a une assez bonne traçabilité, en principe, tant qu'on est sur du poisson, sur du produit frais. Sur tout produit, on doit savoir d'où il vient, de quelle espèce il s'agit, avec quel mode de pêche il a été capturé quand il s'agit de pêche, et on doit avoir la précision lorsqu'il s'agit du poisson aquacole. À l'inverse, toute une partie de notre consommation est faite de poissons transformés. La transformation, elle commence dès qu'on achète du fish and chip avec des filets de poissons dans de la panure. Là, la traçabilité est effectivement très mauvaise. On a très peu d'idées, ou il y a en tout cas pas d'obligation d'origine du produit et d'engin de pêche surtout.
Alors, nous traversons actuellement le port de pêche pour voir un tribord, c'est-à-dire à droite, un tonnier, reconnaissable à la montagne de filets à l'arrière et au petit canot sur sa piscière. Sur notre droite, c'est la criée aux poissons. On appelle ça la criée aux poissons parce qu'il y a encore quelques années, il y a un monsieur qui criait l'espèce de poisson qu'il voulait vendre et le prix qu'il en voulait. Mais maintenant, tout ça, c'est fini, tout a été informatisé.
Est-ce que, Frédéric Lemanac, vous pensez qu'il y a plus d'opacité en raison aussi des conditions de travail sur l'océan, hein, loin de nos yeux, loin des enjeux?
Oui, certainement, et c'est aussi une question d'échelle. En fait, quand on va chercher du poisson sur des bateaux qui font 100, 120, 140 mètres de long et qui sont capables de pêcher chaque jour de pêche jusqu'à 400 tonnes de poisson et que personne n'est là pour surveiller, contrôler, observer comment la pratique de pêche est réalisée, de fait, on a un problème, on a beaucoup de déclaratifs des industriels, mais ensuite, il y a très peu de personnes qui sont payées pour aller contrôler que ce qui est déclaré est vrai. Et nous, on a vu par exemple aux Pays-Bas des bateaux débarquer des centaines de tonnes de poissons par jour la nuit, avec aucun contrôleur sur place, ou alors un contrôleur qui va regarder une cagette ou deux cagettes, et ensuite faire un produit en croix sur 4000 tonnes de poissons débarqués. Donc on est vraiment sur une échelle qui ne permet pas de contrôler ce qui est fait. Et donc effectivement, il y a une sorte d'opacité avec ces quelques bateaux qui vraiment capturent énormément de poissons et pour lesquels on n'arrive pas vraiment à savoir ce qui est débarqué, si c'est la bonne espèce, si c'est la bonne taille, si ça a été bien pêché au bon endroit. Tout ça, ce sont des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse.
Il est donc vital de faire la lumière sur ce secteur d'activité, sur les différentes pêches qui se côtoient et se concurrencent, sur les méthodes et sur leurs effets pour la santé planétaire et la nôtre. Que sait-on à ce jour de la santé des ressources de la mer, Frédéric Lemanac?
La santé, elle n'est pas au niveau où elle devrait être et où elle serait si on avait une exploitation durable. On a une situation qui s'est améliorée depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, c'est certain. On a réussi à arrêter l'hémorragie et la destruction du milieu marin, notamment en Europe. On a une chute des populations de poissons qui a été stoppée et une petite reconstitution, par exemple, sur des espèces assez emblématiques comme le thon rouge, dont on a beaucoup parlé dans les années 2000, qui était très surpêché. On a une reconstitution de la population, donc c'est une bonne chose. Mais ça, c'est uniquement la question du combien on pêche. Et en fait, la pêche durable, c'est pas simplement le combien, c'est aussi qui, comment, pourquoi. Toutes ces questions-là, en fait, ne sont pas du tout intégrées dans la politique commune de la pêche. Et donc, on a une situation, quand on regarde simplement l'objectif de productivité et de capture annuelle, on a une amélioration depuis quelques années. Mais en termes de santé des écosystèmes, on continue d'avoir des méthodes de pêche qui sont extrêmement destructrices. Et d'un point de vue social, on a un modèle qui est fait pour les grands industriels, et donc ça fonctionne très bien pour eux. Mais ça fonctionne que pour eux. Ça fonctionne pas du tout pour les petits pêcheurs.
Alors, il faut préciser qu'en France, on importe les deux tiers de la consommation de poissons, notamment ceux issus de pisciculture comme le saumon et la crevette. Nous allons en parler et parler aussi des provenances. Didier Gasquel, en quoi notre consommation actuelle n'est-elle pas soutenable, durable et éthique ?
D'une part, on consomme, comme on l'a dit tout à l'heure, trop pour des raisons de partage éthique de la ressource à l'échelle de la planète. Mais ça, c'est vrai surtout pour la pêche. On est vraiment confronté en matière de pêche à l'idée que les océans ont une certaine productivité, qu'on peut pas pêcher plus que ce que produisent les océans. Aujourd'hui, on pêche largement ce que produisent les océans, on peut pas augmenter. Donc c'est un problème de partage de ressources. C'est un problème aussi, effectivement, de méthode de pêche. Il y a des méthodes de pêche qui sont plus destructrices que d'autres. On sait en particulier que les chaluts de fond, c'est-à-dire ces grands engins en forme d'entonnoir qu'on traîne sur le fond pour ramasser tous les poissons qui y sont présents, eux ont des impacts multiples. Ils ont des impacts parce que on pêche toutes les espèces ensemble, ensuite on en rejette une partie. Ils ont des impacts parce que il faut des gros moteurs pour tirer ces gros engins et que donc on consomme beaucoup de gasoil et donc on rejette beaucoup de CO2. Et puis peut-être surtout, ils ont des impacts parce que, pas partout, mais au moins dans un certain nombre d'endroits, ils détruisent toute une faune marine qui est présente sur le fond et une faune qui est à la base des chaînes alimentaires. Donc, avec cet engin-là, en quelque sorte, on détruit une partie de la ressource des poissons, on détruit l'alimentation des poissons. Et on compromet finalement la productivité des océans. Donc, Frédéric Lomanac l'a dit, on a pris beaucoup de mesures pour limiter le nombre de bateaux, pour limiter la quantité de poissons pêchés, notamment avec des quotas de pêche qui sont devenus plus restrictifs. Par contre, on est encore très très en retard sur des questions comme celle de l'impact sur les écosystèmes, de l'impact sur les habitats. On a aussi des impacts, alors avec d'autres engins, hein, sur des espèces sensibles, les mammifères marins, les oiseaux, dans certains cas les grands requins, etc. Et puis, on a des impacts globalement en matière d'émissions de CO2, de rejets de polluants, etc. Donc, une pêche vraiment durable, ce que moi j'appelle la pêche écologie, hein, c'est une pêche qui cherche réellement à minimiser en permanence l'ensemble de tous ces impacts, et l'ensemble des impacts, y compris d'ailleurs sur les populations exploitées. Par la pêche.
Oui, c'est-à-dire.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des normes, ce qu'on appelle les normes de gestion. La règle du jeu pour le calcul des quotas, c'est de se placer en limite de la surpêche. Donc on évite la surpêche, ce qui est évidemment une bonne idée, hein, mais on se place juste en limite de la surpêche. Et à ce niveau-là, on a des impacts qui sont déjà très très importants. On appelle pêche durable une situation dans laquelle on est juste à cette limite de surpêche, avec en fait une abondance de la population exploitée qui a déjà été divisée en gros par 3. Ça dépend des espèces, mais c'est l'ordre de grandeur. Bon. Et on sait qu'on pourrait avoir des impacts beaucoup plus faibles si on protégeait les jeunes poissons, si on protégeait les juvéniles, si on acceptait de ne pêcher que les plus gros. On laisserait les petits dans la mer, ils feraient des fortes biomasses, ils feraient fonctionner l'écosystème, et au lieu de pêcher beaucoup de petits poissons, eh ben on accepterait de pêcher moins de poissons plus gros. On aura à la fin la même capture, avec beaucoup moins d'impact et avec finalement une rentabilité des pêches bien meilleure et des écosystèmes qui se portent bien mieux.
Alors, surpêche et surconsommation, entre 41% et 87% des stocks de poissons sont surexploités en Atlantique Nord-Est et en Méditerranée. Frédéric Lemanac, c'est une situation de façon catastrophique partout. Hein. Je crois un tiers de la consommation mondiale de poissons ne serait pas soutenable. Et donc, des espèces en sont le plus les victimes.
Les espèces qui vont être vraiment les plus sujettes à l'extinction, ça va être les espèces qu'on appelle accessoires, qui sont capturées de manière accidentelle. J'aime pas bien ce terme parce qu'en fait c'est pas un accident, c'est quand même causé par la manière d'aller pêcher le poisson qu'on cible. Mais donc on va avoir des captures accessoires, notamment dans la pêche thonnière par exemple, de ces grands requins, longimanes, soyeux, etc. Certaines tortues marines aussi qui vont être capturées par les navires qui ciblent le thon. Et donc là on peut avoir des problèmes d'espèces menacées d'extinction. Pour le cabillaud ou pour d'autres espèces qu'on va aller cibler, le problème d'extinction, il n'est pas vraiment existant puisque, en fait, on a quand même une grande partie des populations de ces poissons-là qui sont à des profondeurs ou à des endroits qui restent inaccessibles à la pêche.
Mais malgré tout, il y a certains poissons pour lesquels, si on veut une pêche durable, il n'est pas très conseillé de les consommer, par exemple.
Évidemment, c'est le cas, par exemple, des espèces profondes puisque plus on va aller profond dans l'océan, plus on va avoir des espèces qui vont avoir une croissance lente et une reproduction tardive. Par exemple, l'empereur qu'on voyait sur le marché européen il y a encore une vingtaine d'années, qui est maintenant interdit à la pêche en Europe, c'est un poisson qui a une maturité sexuelle autour de 60 ans, qui peut vivre plus de 120 ou 130 ans. Et donc forcément, dès qu'on va aller capturer des individus de cette espèce-là, on va mettre en danger le renouvellement de la population. Donc les espèces profondes, c'est la lingue, c'est l'empereur, c'est le sabre noir, c'est le grenadier de roche. Toutes ces espèces qui étaient ciblées jusqu'en dans les années 2015. Bloom a obtenu l'interdiction de la pêche profonde en Europe en 2016. Mais ce sont toujours des espèces qui sont capturées puisque on ne les trouve pas uniquement à partir d'une profondeur. On commence à les trouver à certaines profondeurs et ensuite, plus on descend profondément dans l'océan, plus on va en trouver. Mais donc, ce sont toujours des espèces qui sont capturées et qui sont très sensibles parce qu'elles se reproduisent tardivement et vivent très longtemps.
Est-ce qu'on peut avoir une idée en pourcentage pour 100% de bateaux de pêche, combien sont durables aujourd'hui avec une pêche quand même plus respectueuse de ses ressources et combien pratique la surpêche ?
C'est difficile de donner des chiffres vraiment très précis, mais les grandes tendances qu'on peut observer, c'est que on a la petite pêche côtière qui va utiliser des hameçons, faire de la pêche à la ligne, pêcher au casier, etc. C'est à peu près 20% des captures. Donc on est sur une petite partie de ce qui est pêché. Et évidemment qu'un bateau qui fait 80, 100 mètres, 120 mètres va avoir une capacité pour aller capturer du poisson qui est infiniment plus grande.
Didier Gasquel.
Oui, moi je voudrais revenir sur la question de la durabilité. Parce que le grand public pense souvent que la durabilité, c'est une question d'extinction d'espèces. Et c'est vrai que quand on parle des espèces terrestres, c'est souvent la question. En milieu marin, ça ne concerne qu'un petit nombre d'espèces. On a des risques d'extinction, comme l'a dit Frédéric Lomanac, sur les grands requins, mais aussi sur les mammifères, sur quelques espèces profondes, etc. Sur la majorité des espèces qui sont ciblées, on a un problème de durabilité qui n'est pas un problème d'extinction. Personne n'imagine que la plie, la baudroie, la sole, mais on pourrait parler de la langoustine, de crustacés, etc., va disparaître. Pour autant, beaucoup des populations animales sont aujourd'hui à des niveaux d'abondance qui sont très faibles, en particulier, pas uniquement, mais en particulier à cause de l'impact de la pêche. Et ce niveau d'abondance très faible ne leur permet plus de jouer leur rôle dans l'écosystème. En fait, aujourd'hui, quand on regarde le fonctionnement d'un écosystème, il faut bien comprendre que ce que nous pêchons, ce sont tous les prédateurs supérieurs et intermédiaires. Donc, on modifie complètement la structure de l'écosystème et donc complètement son fonctionnement. Et on tend vers des écosystèmes dans lesquels on a des déséquilibres entre les espèces, on n'a plus les régulations exercées auparavant par les prédateurs supérieurs, etc. Et on a donc des écosystèmes qui tendent à devenir moins productifs et surtout plus instables, avec une multiplication de ce qu'on appelle les chaos de la nature. C'est-à-dire ces situations, tout d'un coup, une population se développe tandis qu'une autre s'effondre. Et ça, c'est extrêmement problématique en matière d'écologie, mais c'est problématique y compris pour les pêcheurs. Voilà. Alors, vous rajoutez à ces impacts de la pêche, il faut pas les négliger aujourd'hui, ils sont très importants, les questions de pollution, de dégradation d'habitat, d'impact du changement climatique. Et effectivement, oui, on est aujourd'hui dans une situation critique de fonctionnement des écosystèmes qui explique la crise de la pêche actuelle.
Et rajouté à ce tableau sombre, il y a la question aussi des élevages. Je vous propose de prendre la direction de l'Écosse pour scruter un élevage de saumon.
On a un total actuellement de 200 000 saumons qui grandissent dans ces parcs. Cela, on va les pêcher dans un mois et en général, ils atteignent la taille adulte en 22 mois maximum.
Des saumons élevés sans produits chimiques ni antibiotiques. Le secret ? Des poissons de roche pêchés à 1 km de là, au bord des falaises.
On avait l'habitude d'utiliser des produits chimiques comme beaucoup de monde pour se débarrasser des poux. Mais les poux sont devenus résistants à ces produits. Maintenant, ce sont ces petits labres qui soignent les saumons. S'ils voient une tache brillante sur le saumon, s'ils voient le poux, ils vont venir le grignoter et le manger.
France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
Reportage diffusé le 15 décembre 2018 dans le 20h de France 2. Les élevages, une production qui a explosé. On trouve des saumons, bien sûr, mais des truites, des barres, des dorades. On pourra parler aussi des bassins de crevettes. Je vous laisse peut-être réagir, prendre la parole, parce que c'est vrai que ça fait partie quand même d'une grosse masse de la consommation et de ce qu'on retrouve dans nos assiettes. Frédéric Lemanac.
C'est en réalité l'essentiel de ce qu'on consomme, puisque quand on regarde la consommation moyenne d'un Français ou d'une Française, les espèces les plus consommées, c'est le thon tropical, donc qu'on va consommer en boîte, qui n'est pas une espèce d'aquaculture, mais qui vient de très loin et qui est importée. Mais ensuite, on a le saumon, qui vient essentiellement de Norvège et d'Écosse, et on a la crevette, qui vient essentiellement d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale ou d'Asie du Sud-Est. Et le problème, c'est que cette consommation explose. On nous a vendu l'aquaculture comme étant une solution à la surpêche, alors que l'aquaculture dépend en grande partie pour son alimentation de poissons sauvages, qui va être souvent pêché en plus en Afrique de l'Ouest. Et donc l'aquaculture, non seulement ne règle pas le problème de la surpêche, mais en plus l'aggrave à certains endroits, voire va complètement détricoter des économies littorales en Afrique de l'Ouest, puisque les personnes, notamment les femmes qui commercialisaient le poisson en Afrique de l'Ouest, en fait, n'ont plus de poisson à acheter, à transformer, à faire sécher, à fumer et à revendre, puisque tout est acheté par des usines pour faire de la farine pour aller nourrir, justement, ce poisson en Écosse. Donc là, ce qui est marquant dans ce reportage, c'est qu'on nous vend une évolution positive, puisqu'on va utiliser des poissons qui vont aller manger les poux qui infestent les saumons, et donc on n'a plus besoin d'avoir de pesticides pour tuer les poux.
Et ça, c'est le cas dans certains pays d'Europe du Nord, mais ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays où on continue à utiliser des pesticides et des intrants chimiques.
Bien sûr, ce n'est pas du tout généralisé, et donc c'est quelques fermes qui ont cet objectif-là de limiter les pesticides et s'en servent comme un outil commercial. Mais ça n'empêche pas que ce poisson-là reste nourri avec du poisson qui va être pêché en Afrique de l'Ouest. Donc, quelque part, l'aquaculture de poissons carnivores ne peut en aucun cas être présentée comme une solution à la pêche durable, en prenant aussi en compte l'aspect social, humain, de cette durabilité.
Votre réaction, Didier Gasquel ?
Ma réaction, elle est sans ambiguïté. Le saumon, et plus généralement toutes les espèces de poissons piscivores, celles qui se nourrissent de poissons, c'est le produit par excellence pas durable et le produit qu'il faut éviter de mettre dans son assiette. Ça pose à la fois des questions d'empreinte environnementale très importante, d'impact écologique très important, mais aussi, comme l'a souligné Frédéric Le Manav, ça aggrave la surpêche et ça pose des problèmes sociaux, éthiques, dans le fait que, d'une certaine manière, aujourd'hui, nous pillons les ressources du Sud pour nourrir les saumons du Nord. Voilà. Ce qu'il faut tout de suite dire, c'est qu'il y a d'autres formes d'aquaculture qui sont beaucoup plus durables. Les huîtres, les moules, c'est relativement vertueux. Les algues, si on arrivait à augmenter la consommation, c'est une voie d'avenir extrêmement vertueuse sur laquelle il faut travailler. Il y a des poissons herbivores qui sont développés, enfin des élevages de poissons herbivores qui sont développés dans d'autres pays, qui n'ont pas du tout ces impacts-là. Nous avons fait le choix en Europe, et notamment dans les consommations en France, de privilégier des produits d'aquaculture qui sont extrêmement impactants, extrêmement problématiques. Donc il faut revoir là aussi tout le modèle d'aquaculture, de la production aquacole et toute notre consommation en matière de produits d'élevage.
Le président veut des huîtres. Un plateau pour 6 personnes dans un quart d'heure.
J'y vais. J'ai fait une petite mayonnaise au citron, une mousseline et une petite sauce vinaigrée avec des échalotes grises.
Bon, très bien. Alors moi je vais m'ouvrir 2 petits pâtés de foie gras pour aller avec les huîtres comme à Arcachon. Et j'emmerde la diététicienne.
Didier Gasquel, on retrouve dans la chaîne alimentaire et donc dans les poissons des produits, des métaux lourds, du cadmium, du mercure, de l'arsenic, alors les antibiotiques et les pesticides, insecticides dont on a parlé bien sûr, mais des dioxines, PCB, PFAS, microplastiques, etc. Aujourd'hui, on voit bien que des nutritionnistes et des médecins conseillent une consommation de poissons limitée à 1 ou 2 fois par semaine et pour des personnes plus fragiles ou des enfants, des femmes enceintes, même une seule fois par semaine.
Oui, alors là, on rejoint le problème, effectivement, qui est celui de la qualité des milieux. C'est vrai que les polluants, d'une manière générale, et notamment ceux que vous avez cités, se concentrent dans la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que plus on va vers les prédateurs plus supérieurs, plus il y a des risques de taux élevés. Alors, tous les poissons ne sont pas tous bourrés de contaminants, mais effectivement, il y a un certain nombre de cas où on a été amené à faire des recommandations de limitation. C'est vrai, par exemple, d'à peu près tous les poissons pêchés en mer Baltique, qui est un milieu extrêmement pollué. C'est vrai d'un certain nombre de grands thons sur lesquels il peut y avoir des problèmes de contaminants. Bon, alors, il y a des normes, on essaye de le vérifier. Ces normes font elles-mêmes l'objet de débats, mais ça fait partie, effectivement, des problèmes de durabilité. Mais j'ai envie de dire, en amont de ça, pour moi, la question de limiter notre production, elle est plus ce qu'on a évoqué en début d'émission, à savoir avant tout une question d'équilibre nord-sud. Et puis si on choisit du poisson de pêche durable, là probablement on va en consommer moins et on aura moins ces problèmes de sécurité alimentaire liés aux polluants.
Frédéric Le Manac, on se pose forcément la question, comment manger pour le futur et que faudrait-il engager pour justement protéger, restaurer et aller vers une pêche plus durable ?
C'est une question simple, mais une réponse compliquée. Et à mon sens, il faut vraiment que la compréhension de ce qu'on a dans l'assiette augmente. Le poisson, ou les crustacés, les céphalopodes, enfin tout ce qu'on peut trouver dans notre assiette qui provient de la mer, c'est une ressource qui est sauvage, qui est rare, qui est fragile. Et donc, on ne peut pas en consommer tous les jours comme si c'était du poulet ou du jambon, enfin... Pas que ces aliments-là soient exempts de tout problème.
Nous en parlerons dans les émissions suivantes.
J'imagine, mais au moins on en contrôle la production. Pour le poisson, ce n'est pas le cas. Et pour aller pêcher du poisson, on a un impact sur l'environnement, on a un impact sur la santé des écosystèmes marins. Et donc, il faut qu'on ait ça en tête quand on fait notre choix. Et donc, comme l'a dit Didier Gasquel, dans notre consommation, on a plein d'espèces qui proviennent du bout du monde, qui sont mal pêchées ou qui sont produites dans des élevages d'aquaculture qui vont générer tout un tas de problèmes de sécurité alimentaire, de stabilité politique, etc., de déstabilisation politique. Et donc, la consommation durable de poissons doit passer par l'exclusion de certaines espèces. On a parlé de saumon, on a parlé de crevettes, on a parlé de thon, etc. Donc, toutes ces espèces qu'on préfère, en fait, on ne devrait plus en avoir dans notre assiette. Et donc, ça limiterait notre consommation. en gros à ce qui est pêché déjà en France, et même dans ce qui est pêché en France, il faudrait qu'on limite à ce qui est bien pêché. Et donc en France, on a beaucoup de poissons qui est pêché avec des méthodes de pêche destructrices dont on a parlé, comme le chalut de fond, comme la senne démersale, d'autres engins. Tout cela, en réalité, on devrait aussi exclure ce poisson-là de nos assiettes. Et donc, se limiter simplement à ce qui est pêché par des pêcheurs côtiers qui partent à la journée, qui pêchent de saison avec des méthodes de pêche peu impactantes comme la pêche à la ligne ou comme la pêche au casier. Et en fait, on a plein d'espèces que ces pêcheurs-là pêchent. Ça peut être du maquereau, ça peut être du merlan, ça peut être de la vieille, ça peut être du rouget. On a plein d'espèces, pas loin d'une centaine peut-être d'espèces qui sont capturées par des pêcheurs côtiers en France.
On dit qu'il vaut mieux aussi manger des petits poissons ou ceux qui ne restent pas trop longtemps dans l'océan pour ne pas ingérer trop de polluants, c'est vrai ? On parle des anchois, les sardines, les harengs, les chinchards ?
C'est vrai en partie pour certains polluants. Mais vraiment choisis ton poison, c'est-à-dire que certaines espèces comme la sardine vont être beaucoup moins sujettes à accumuler le mercure puisque ce sont des espèces qui ont une durée de vie qui est limitée.
Oui.
Mais à certains endroits, ce sont des espèces qui vont accumuler les PCB par exemple ou les dioxines.
D'accord.
Et donc la question c'est de toute façon de limiter notre consommation de poisson pour se limiter à ce qui est bien pêché.
Mmh.
Et en limitant notre consommation de poissons, on limitera notre contamination. Mais c'est aussi une question de diversité. Si on consomme toujours la même espèce, ça peut créer des problèmes de surpêche pour cette espèce-là. Mais de toute façon, si c'est une espèce qui est polluée à tel ou tel contaminant, c'est pas bon de ne consommer que cette espèce-là. Mmh. Donc on doit aussi avoir une diversité dans notre alimentation.
Il faut privilégier, d'abord il faut limiter sa consommation, effectivement, et il faut la recentrer sur la consommation locale, donc effectivement essayer d'éviter le poisson d'importation, avoir le plus local possible, alors qu'on est à Paris, le local c'est peut-être le français, voire l'européen, hein. Mais quand on est sur la côte, essayer d'avoir du poisson de la pêche du jour, pêcher très localement, et puis effectivement... limiter autant que possible la consommation de poissons issus du chalut de fond, voilà. Mais si on réunit ces conditions, on peut avoir un produit de trop de valeur environnementale. Les labels, malheureusement, ne le garantissent pas. Les labels, aujourd'hui, en gros, garantissent que le poisson respecte la réglementation. Mieux vaut effectivement aller au rayon du frais, interroger le poissonnier qui sait d'où vient le poisson, qui sait, qui doit être en mesure de vous dire avec quel engin de pêche il a été pêché, c'est obligatoire, c'est dans la réglementation, et puis de diversifier sa consommation, de sortir du triptyque, effectivement saumon, thon, crevette, j'ai envie de rajouter, sortir aussi de la morue, parce que les plupart des morues sont aujourd'hui cabillauds, hein, sont issus des importations qui viennent de très très loin, et puis aller vers une diversification. Il y a aujourd'hui des poissons, je pense au taco, je pense à la plie, je pense effectivement, vous l'avez dit, des espèces comme les harengs, les sardines, les chinchards. Le chinchard est un poisson aujourd'hui très très peu valorisé et qu'on peut pêcher de manière extrêmement durable à la ligne et qui restera un produit très bon marché.
Merlu, julienne, aiglefin, carlé, truite de rivière, on n'a pas parlé des poissons de rivière, mais... peut-être une autre problématique d'ailleurs. Hein.
Les truites, généralement, que vous trouvez sur le marché, c'est d'élevage. Il y a les mêmes inconvénients que le saumon, malheureusement. Hein.
Mmh.
Voilà. Donc je ne les mettrai pas dans la liste des recommandations. Voilà, oui, il y a une diversité de produits qui peut contribuer à l'alimentation humaine, à condition de bien savoir les choisir.
Et Didier Gasquel, pendant 14 ans, de 2008 à 2022, vous avez été membre du Conseil scientifique des pêches de l'Union européenne, hein, je crois ne pas dire d'erreur. Sans un engagement ferme de l'UE et des pays membres, un renouveau du secteur ne pourra pas se faire.
Alors, j'ai envie de dire oui, l'Union européenne a d'une certaine manière imposé des normes de durabilité en matière de pêche. Et heureusement qu'elle l'a fait. Alors, ça a mis longtemps, hein, c'était une longue bataille, mais aujourd'hui, on a des quotas de pêche qui sont à peu près efficaces. Ça reste encore très en dessous de la nécessité, hein. Voilà, les réglementations sur les engins, on en a parlé, elles sont insuffisantes. On a des aires marines protégées qui ne sont pas protégées, ça reste insuffisant, etc. Donc, l'Union européenne joue aujourd'hui un rôle central. La politique des pêches, c'est une politique européenne. Mais il faut bien le dire, ça ne suffit pas.
Frédéric Lemanac, vous voulez ajouter quelque chose ?
Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Nous, chez Bloom, on est vraiment interventionniste. C'est-à-dire que la question de l'individu et du choix de consommation individuelle, il est important pour s'aligner déontologiquement avec ce qu'on veut et la vision qu'on peut avoir de la société. Mais c'est les choix au niveau européen, au niveau des États, qui feront qu'effectivement, on actera une transition sociale, environnementale, économique des pêches. Et ça ne pourra pas être simplement un choix individuel qui fera ça. Il faut des États volontaires pour changer radicalement la donne et simplement à fixer une ligne, une vision pour la société.
Sale Normande à ma façon.
Eh oui,
Vous allez voir ce que c'est que la bonne cuisine.
Tout le menu est au beurre. Brochet beurre blanc, raie au beurre noir, escalope beurre noisette.
La question rituelle du podcast, en quelques minutes. Hein. Quel plat ou aliment recommandez-vous? Où est votre péché mignon? Didier Gasquel.
On peut sûrement faire des tas de choses excellentes avec le cortège de ces poissons fourrages, du hareng à la crème ou du maquereau à la crème, c'est excellent. De la rillette de chinchard, on doit pouvoir faire des choses absolument formidables. Moi, on m'interroge des fois sur l'alimentation dans les cantines scolaires. Et je dis, mais allez regarder de ce côté-là. Vous pouvez avoir des poissons pas chers, de très haute valeur gustative, qui sont bons, hein, qui ont du goût, enfin il faut un apprentissage au goût, et qui peuvent être pêchés de manière extrêmement durable avec de la pêche à la ligne.
Frédéric Lemanac.
Bah, pour réagir peut-être par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les algues aussi, qui sont vraiment un pan culinaire pas du tout développé et pourtant qui serait très vertueux. Donc c'est pas un coup de cœur, mais j'aime bien le tartare d'algues, et c'est vrai que si on consommait beaucoup plus d'algues, ce serait certainement un pas dans la bonne direction. Donc, les petites tartinades de sardines, etc., c'est très bien. C'est beaucoup mieux que de consommer des grands prédateurs comme du thon ou du cabillaud. Mais de toute façon, il faudra qu'on végétalise notre alimentation et ça vaut aussi pour les produits de la mer. Donc, algues à développer.
Merci à tous les deux. Merci Frédéric Lemanac. Merci Didier Gasquel. Je rappelle le titre de votre livre, La pêche écologie, manifeste pour une pêche vraiment durable. Un livre paru aux éditions Quae. Et toutes les références sont à retrouver, bien sûr, sur le site de l'émission De Cause à Effet, franceculture.fr. Et puis c'est votre choix musical, Frédéric Lemanac, que nous allons écouter. Bertrand Belin, Pluie de Data, une raison?
J'aime beaucoup Bertrand Belin. Je trouve ça très poétique. Et c'est une voix et des textes qui font du bien, je trouve, en ces temps très troublés.
Depuis le jardin d'Éden, au jardin public, je suis le metteur en scène. Je suis le critique. J'ai rien voulu savoir. J'ai jamais rien voulu savoir. Dieu, demi-dieu, ancien demi-dieu, nouveau concierge, tailleur de verge, tyran de palais, tyran de gourbis, médaillé des boucheries. Pour apprendre qui est le chef. Ici, j'ai pris les petites vies, sauterelles et tourneaux, fourmis. Malheur sous l'index, malheur dans la prairie, malheur dans l'infini, mon petit, et malheur au vaincu, devant l'inconnu, dans l'infanterie anonyme. J'ai fait grandir des ruines à coups de fusil au nom de nations. J'ai fait grandir des ruines au bénéfice de l'action. J'ai fait grandir des ruines, champs de luzerne, de pétrole, champs de mine. J'ai fait grandir des ruines, enfoncer des portes. J'entends de langues mortes, j'entends des comptines. Les gens pendent, les gens les piétinent. Du premier cas d'amour, du premier mot de travers, à la première chienne dans l'espace. Je t'ai gardé les miettes, j'avais des plaisirs, des vengeances. Sur le feu, sur la planète bleue.